Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles, Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changés. Venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Bolivie, quatrième partie. Pour la suite de notre séjour en Bolivie, ce qui nous semblait vraiment important avec Daniel, c'était de pouvoir vivre à nouveau une expérience d'immersion locale en famille, comme on l'a fait au Laos, comme on l'a fait dans d'autres pays. Et moi, j'avais trouvé une famille au nord de La Paz, à Tunis, où on pouvait aller passer quelques jours. Et comme c'est au nord et qu'on ne veut pas faire trop de détours, en tout cas en termes de route, et ben on s'oriente vers le nord, donc on va en direction de l'Isla del Sol, qui est au-dessus, enfin à l'ouest de La Paz, qui est un endroit qui a l'air assez reposant, qui nous a été conseillé par d'autres voyageurs, avant de rejoindre cette famille plus au nord. Donc là, on est reparti pour un trajet de bus de nuit, pour aller jusqu'à La Paz, et le lendemain, reprendre directement un bus pour aller à Copacabana, ce qui nous permettra ensuite d'aller sur l'île. Et donc, on décide de prendre nos billets le matin, cette fois-ci, pour le soir. Donc, on laisse les enfants à l'hôtel. Et puis, on va chercher le bus qui sera le plus confortable et là où on aura le moins froid. Donc, je pense qu'on prend le plus haut de gamme de tous les bus. Mais on sera hyper content de ça parce qu'on fait une super nuit à bord du bus avec même des couvertures assez épaisses. Et on est bien content parce qu'il fait bien froid pendant le trajet. Donc on arrive au petit matin à La Paz, on est quand même à 4000 mètres, plus de 4000 mètres d'altitude, et on attend 2 heures dans le terminal de bus, on se fait un petit déj, avant de reprendre un autre transport pour aller à Copacabana, qui nous permettra d'embarquer sur un bateau pour aller à l'Isla del Sol, sauf que le temps qu'on arrive, il n'y aura plus de bateaux, les bateaux ne partent que le matin, donc on se dit, on va se poser à l'hôtel pendant une nuit, et puis on prendra le bateau le lendemain pour aller sur l'île. On pose nos bagages dans l'hôtel à Copacabana, qui est une petite ville franchement agréable. Nous, notre hôtel, il est de l'autre côté de la cathédrale. Et puis, on descend direct en ville, dans une des avenues qui descend vers le lac. On se pose en terrasse et là, c'est un bonheur parce qu'on retrouve à nouveau un peu de chaleur. En fait, on a même très chaud en terrasse. On y déjeune d'une truite. C'est vraiment la spécialité du coin. Et c'est super de sentir à nouveau d'avoir chaud, voire même trop chaud. On enlève nos pulls, on a presque envie de se mettre en short. La plupart des voyageurs qui visitent l'Isla del Sol, ils vont pour la journée ou dorment une nuit sur place. Mais nous, on a vraiment basculé en slow travel et on sent qu'on va être bien là-bas, donc on décide d'y rester 3 nuits. Alors on fait un tri dans nos affaires, on en laisse une partie à l'hôtel, de manière à avoir juste des sacs à dos qui soient facilement transportable. Et puis on prend un bateau pour le nord de l'île parce que notre première journée, elle va consister à randonner du nord de l'île vers le sud où on a trouvé une chambre chez l'habitant. Et ça va prendre à peu près 5 heures de marche. Donc il faut qu'on voyage léger. C'est impressionnant déjà de traverser ce lac Titicaca. On dirait que c'est la mer, quoi. C'est absolument immense. Et ce qui est génial, c'est toujours pareil, c'est qu'il fait beau. Il y a un immense soleil. Donc quand on débarque dans le petit port du nord, on ne se précipite pas à partir randonner partout, explorer les ruines. On se pose dans un petit resto, on est les seuls d'ailleurs à se poser dans ce restaurant et on déjeune d'une truite. Et c'est hyper sympa. On prend le temps, de toute façon, on n'est pas pressé. Thank you.
commence la rando après déjeuner. Et puis, on passe des paysages qui sont sublimes. Ça monte pas mal au départ. On traverse des forêts de conifères locaux. Et puis là-haut, on arrive sur une crête où on voit de part et d'autre de l'île. On voit le lac et on croise quelques endroits où il y a des fermes. Et un paysage assez rocailleux, assez sec. Et c'est vraiment très beau. Et puis on commence à voir arriver des petits murets en pierre, quelques habitations. On voit qu'on se rapproche du village du sud. Et on trouve chez l'habitant où on va rester 3 jours. Cette famille, elle nous a été recommandée par 2 jeunes qui voyageaient dans le groupe de jeunes dans le Salar, là, avec qui on était. Et c'est vrai que c'est super parce qu'ils ont aménagé tout le premier étage de leur maison de manière hyper confortable. Il y a du parquet par terre, des lits confortables, des couettes en plumes. C'est assez fou. Et on a de l'eau chaude dans les salles de bain. Nous, on a 2 chambres, donc une chambre pour 3 pour nos filles. Et puis nous, on a une chambre double. Et surtout, quand on ouvre les rideaux, ben, on a une vue à 180 sur le lac Titicaca. La famille est adorable. Chaque membre de la famille, que ce soit la maman, la grand-mère, les enfants, le papa, le grand-père, ils sont tous très gentils et ont à cœur à ce qu'on soit vraiment confortable. Et ils nous préparent le petit déjeuner tous les jours dans la petite salle de restauration à côté. Bon là, on voit quand même que ces gens-là, ils vivent dans des conditions quoi, de pauvreté assez extrêmes. Et l'état de la cuisine, l'état de la maison tout court, de l'extérieur, ils font la lessive à la main dans un bac d'eau froide à l'extérieur. Enfin, c'est assez fou. On se dit, bon ok, nous on a un peu froid, mais c'est dans nos chambres qu'ils ont monté un dispositif pour qu'on ait de l'eau chaude. Et c'est pas chez eux, quoi. Eux, ils se douchent à l'eau froide. Alors il faut voir aussi le dispositif installé pour avoir de l'eau chaude. C'est un espèce de mécanisme qui se met avant le pommeau de douche. Il y a des fils électriques qui sortent de partout. Même Swan, sur une douche, elle se prend un petit coup de jus en voulant augmenter la température. Donc c'est vraiment pas sécure, on fait quand même très attention. Mais bon, c'est vrai qu'on crache pas sur quelques gouttes d'eau chaude pour pouvoir se laver. Là, il n'y a pas de magasin pour s'approvisionner en nourriture. C'est plutôt les particuliers qui vendent 2-3 petites choses, des petits snackings ou des choses comme ça. Et puis sinon, pour déjeuner, il y a quelques restaurants qui fonctionnent, mais c'est essentiellement des habitants qui ont une ou deux tables sur leur terrasse. Et vous allez chez eux, vous leur demandez et ils vous cuisinent un repas. Donc le repas classique de l'Isla del Sol, c'est de la trucha, donc c'est la truite du lac, bien sûr, avec des légumes et des pommes de terre. Donc on se met dans un espèce de rythme où on va se promener en général le matin, déjeuner chez un habitant et puis l'après-midi on se met au boulot dans la salle de petit déjeuner où on s'installe à peu près à l'abri du vent et puis on fait le homeschooling. Le deuxième soir, je propose à Daniel qu'on aille dans un restaurant qui est à 10 minutes à pied de l'endroit où on dort, qui a une vue imprenable sur le lac Titicaca, donc un coucher de soleil incroyable. Mais surtout, ensuite, on dîne aux chandelles. Donc on se dit que c'est rigolo. Et quand on arrive pour voir le coucher de soleil, il y a une autre famille, 2 adultes et 2 garçons. Et on entend qu'ils parlent français. Donc très vite, on discute. Et puis, ils sont aussi en long voyage. Et ils attendent aussi que le restaurant ouvre pour aller dîner. Donc on se dit, oh, c'est rigolo, on n'a qu'à aller dîner tous ensemble. Bon, les filles, elles sont trop contentes d'être avec d'autres enfants. Bon, Swan est un peu déçue parce qu'une fois de plus, ce sont des enfants qui sont assez jeunes. Ils ont 5 et 8 ans. Mais par contre, les 2 autres sont hyper ravis. Ça rigole, ça parle. On a des jeux de cartes, évidemment. Ils jouent aux cartes. Et puis nous, on est super contents de pouvoir partager avec une autre famille, avec un couple aussi qui voyage longtemps avec ses enfants. Et on se dit qu'heureusement qu'on s'est trouvé pour ce soir-là parce que je pense qu'on attend 2 heures avant de manger nos truites. Les enfants n'en peuvent plus. Et nous, en temps normal, on n'aurait pas pu attendre jusque-là. C'était vraiment trop long. Mais là, voilà, la rencontre s'est faite et c'était encore un moment inattendu, une forme de coïncidence qui tombe à pic. On a bien accroché avec Fanny, Vincent et leurs enfants. Et on a la possibilité de se retrouver le surlendemain à Copacabana. Donc, on se donne rendez-vous pour aller se faire un dernier dîner tous ensemble. On finit notre dernière journée de rando à l'Isla del Sol. Et puis, le lendemain, on plie bagage pour retourner au port et essayer de trouver un bateau qui nous ramène à Copacabana. Donc, je dis essayer parce qu'on n'arrive pas à avoir une information concrète et qui soit la même concernant les horaires de départ des bateaux. Pareil sur les prix. Donc, on se rend au port et là, on se dit qu'on va bien trouver quelqu'un qui va nous ramener. Et puis là, on a de la chance parce qu'on retrouve fortuitement Fanny, Vincent et leurs deux enfants qui ont eu la même idée que nous. Donc, on se met les deux familles ensemble et puis on négocie avec un pêcheur qui a un bateau suffisamment grand de nous ramener à Copacabana. On négocie le prix et puis on y va. Le trajet, il passe hyper vite, alors qu'à l'aller, ça paraissait super long pour les enfants, mais là, ils se sont bien amusés entre eux. Et puis, on se donne rendez-vous pour le soir même, pour dîner dans un restaurant tous ensemble. Et là, c'est génial, Fanny et Vincent, ils nous ont trouvé un resto à côté de leur chambre d'hôte. On y mange une fondue bourguignonne et comble du comble, la fondue au chocolat pour le dessert. Et c'est hyper bon, les enfants, ils sont comme des dingues. Pour rejoindre notre dernière étape, où on va passer 4 jours dans une famille au nord de La Paz, on prend un moyen de transport qu'on n'a jamais pris, c'est le Colectivo. Le Colectivo, c'est une espèce de minibus qui est au départ de toutes les places principales des villes, donc il y en a plein. Et en fait, il faut qu'on prenne un Colectivo qui va en direction de La Paz et on doit expliquer au chauffeur là où il doit nous déposer. Donc c'est Jaime, chez qui on va rester, qui m'a expliqué, qui m'a donné les indications. Il m'a donné un croisement entre une voie rapide et puis une petite route de village. Et donc, il faut qu'on se fasse comprendre par le chauffeur du Colectivo pour qu'il nous dépose là. Donc, on descend dans la rue avec nos bagages, on trouve le Colectivo qui va à La Paz, il y a de la place pour 5, ils hissent nos bagages sur le toit, on se tasse au fond d'un minibus qui est rempli avec des dames boliviennes qui sont en train de tricoter, des personnes âgées qui vont je ne sais où. L'ambiance est très sereine et puis nous voilà partis pour le trajet, sachant que moi je suis à l'arrière avec deux de mes enfants et à l'avant il y a Swan et Daniel qui sont à côté du chauffeur. Avec Daniel, on peut pas se parler parce qu'on est trop loin de l'un de l'autre dans le bus, mais on s'envoie des messages parce qu'on a fait un partage de connexion avec la carte SIM et je lui dis assez vite « Bon, faut que t'expliques au chauffeur où est-ce qu'il nous dépose, faut que tu sympathises avec lui » parce qu'on sait pas trop en fait comment ça va se passer. Les chauffeurs de bus, ils sont quand même assez réservés, ils sont un côté un peu rustre quand même. Mais bon, entre le point GPS qu'on a identifié et les indications données au chauffeur, au bout de 1h45 de route, il arrête son minibus le long d'une voie rapide, au milieu de nulle part, et on descend. Il y a une passerelle en hauteur qui permet de passer au-dessus de la voie rapide, donc on marche en tant que piéton et on prend cette passerelle, on se met de l'autre côté, et on croise les doigts pour être au bon endroit. J'envoie un message à Denis, le fils de Jaime, qui va venir nous réceptionner, mais j'ai l'impression qu'il n'a même pas reçu mon message WhatsApp. Et puis, on se dit qu'il faut qu'on ait confiance dans le fait qu'on est au bon endroit et que quelqu'un va venir nous récupérer. Et puis, 20 minutes plus tard, on voit deux jeunes qui, pareil, passent la passerelle et arrivent près de nous. Ce sont des Occidentaux. Et puis, on discute deux minutes et ils nous expliquent qu'ils vont au même endroit que nous. De toute façon, on n'imaginait pas le contraire. Donc, on se dit qu'on est au bon endroit.
On discute avec Antoine, un des deux jeunes. Ils sont français. Et Antoine nous explique qu'il vient loger avec nous chez Jaime, tandis que la jeune fille qui l'accompagne, qu'il a rencontrée un peu par hasard, qui est française aussi, va, elle, dormir chez le frère de Jaime, qui fait le même système de maison d'hôte dans le village. Donc on attend, et puis on voit de la poussière au loin, et il y a Denis qui arrive dans une voiture tout brinque-ballante. Il se gare et il voit qu'avec la quantité de bagages qu'on a et le fait qu'on est 7, il demande à des gars qui sont pas loin, il y a des chauffeurs de taxi hein, qui sont au bord de cette grande route passante pour amener les personnes au village. Donc il prend un taxi et on part à deux voitures. On roule une trentaine de minutes et on arrive dans des paysages de plus en plus perdus. Ce sont des grandes plaines entourées de montagnes, on voit des lamas, il y a de l'eau qui coule. Et peu d'habitations. Et quand on arrive dans le village, on ne s'attendait pas vraiment à ça. C'est dans une plaine. Il y a des petits cours d'eau qui sont là. Évidemment, les bêtes, des enclos avec des lamas, des alpagas. Et puis, des maisons en ciment très basses. Ça fait un peu des baraquements avec des toits en tôle. Et on se dit, bon, bah ok. Nous voilà arrivés à l'endroit où on va passer quelques jours. Daniel, il me dit tout de suite « Oh, je m'attendais pas du tout à ça ». Je ne sais pas ce qu'il imaginait dans sa tête, mais je pense qu'il s'était projeté sur quelque chose de plus confortable, petit gîte au milieu des montagnes. Et en fait, bah non, on est dans un village typique, quoi. On rentre dans la maison et là, Denis nous présente sa maman, Marisol, qui est au fourneau avec Valéria. Valéria, c'est la nièce de Marisol, la fille de sa sœur qui est décédée. Donc elle a récupéré la garde de Rosalia, qui a 11 ans. Et donc, elles sont en train de cuisiner pour qu'on puisse déjeuner quelque chose parce qu'il doit être 14 heures et on n'a rien mangé. Avant de passer à table, on nous présente notre chambre. Donc c'est une pièce qui est minuscule, dedans il y a 3 lits, un lit double, un lit simple et un lit en 120 je pense, et il y a très peu de place pour circuler. D'ailleurs on est obligé d'empiler nos sacs de voyage et on se dit bon bah qu'on va se tenir chaud pendant ces quelques jours parce que comme la plupart des logements en Bolivie, il n'y a pas de chauffage et donc il fait un peu frisquet. On se régale du repas que nous a fait Marisol et ça ce sera le cas à chaque repas dans cette maison. Et pendant qu'on déjeune, on réalise quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, et ça pose souci à Antoine aussi, c'est qu'il n'y a pas de Wi-Fi dans la maison, et il n'y a pas de réseau téléphonique à l'emplacement du village. Et ça nous pose un gros problème, parce qu'on est en train d'inscrire les enfants au collège, et on n'arrivait pas à avoir de retour, et là on a des échéances importantes qu'il faut qu'on respecte, et on ne sait pas trop comment on va pouvoir avoir confirmation que l'établissement a bien reçu les documents et pouvoir communiquer avec eux. Ce sujet commence vraiment à nous prendre la tête parce que ça fait 3 mois qu'on a anticipé d'envoyer tous les documents au collège qui vont réintégrer Swan en 3e et accueillir June en 6e. Et sur cet établissement, on a eu beau envoyer tous les documents, faire passer les tests de niveau pour l'entrée en 6e de June. On l'a fait au Costa Rica sur une journée entière. On a fait tout le nécessaire, envoyé tous les documents et on n'a jamais eu de réponse malgré nos relances par mail. Donc on commence à stresser au niveau du timing et là on se dit qu'il va falloir qu'on demande de l'aide en France et il faut absolument qu'on appelle nos parents. D'autant qu'on a reçu un mail de l'établissement scolaire qui nous dit que dans la semaine, il y a des horaires d'ouverture précis pour venir retirer les dossiers d'inscription pour nos enfants, pour les inscrire au collège. Mais en fait, on est trop loin, on ne peut pas le faire. Bref, Denis nous explique que si on a vraiment besoin de passer un appel, il faut qu'on monte auprès de l'antenne téléphonique qui est à peu près à 40 minutes de marche avec un bon dénivelé. Donc on est tous bien motivés, Antoine il a besoin de contacter sa famille pour qu'il ne soit pas inquiet du fait qu'il soit hors réseau pendant quelques jours, et puis nous aussi par la même occasion. Donc on part tous les trois marcher et rejoindre cette antenne réseau pour passer nos appels. Arrivé là-haut, on galère quand même pas mal à contacter mes parents, mais on finit par les joindre et finit par réussir à leur expliquer la situation avec des messages enregistrés et puis des messages écrits.
Et donc, ils disent qu'ils vont s'occuper du sujet. Et nous, on se dit qu'on n'a pas trop le choix que de laisser la main. De toute façon, on ne peut rien faire où on est. On redescend en mode balade en faisant le tour de la colline où on est. On passe sur le bord d'un lac. Et c'est vrai que là, on se met vraiment à apprécier le paysage qui est un peu lunaire. C'est très pelé. On est sur les lumières de fin de journée. Donc, c'est tout rose-orangé. On voit les alpagas qui sont là et qui passent à côté de nous. Ils sont en train de rentrer tranquillement vers leur enclos. Bon, c'est assez magique une fois de plus, quoi. Une atmosphère qui est très spéciale. On entend juste le vent qui souffle. Hein. Je me souviens qu'on a froid. Ben, c'est sublime. Et on rentre comme ça, tranquillement à la maison. En fait, les alpagas qu'on a vus, ce sont les alpagas qui sont élevés par Jaime et la famille de son frère. Et ils se partagent le soin de ces bêtes un jour sur deux. Donc un jour sur deux, une des familles emmène le troupeau paître et marcher dans la montagne. Et en fin de journée, il faut les ramener à l'enclos pour éviter qu'ils ne se fassent attaquer par des bêtes sauvages ou des chiens sauvages. Et donc ce jour-là, c'est le tour du frère de Jaime de ramener les bêtes. Donc on les voit, il est en moto avec une deuxième personne, je pense que c'est son fils. Et ils sont en train de rassembler les bêtes pour qu'ils s'orientent tranquillement vers la descente, vers leur enclos. Quand on rentre de notre balade, on découvre à l'extérieur nos trois filles. Avec David et Allison, qui sont un couple de Français qui sont chez Jaime et Marisol pour quelques jours également. Et ils sont tous en train de fouler des patates qui sont dans des bassines. Ils foulent ces patates pieds nus. Et le but, c'est de pouvoir enlever la peau de ces pommes de terre qui vont être séchées ensuite au soleil et stockées pour toute la période de l'hiver pour nourrir la famille. Il y a une super bonne humeur dehors, c'est chouette de les voir s'amuser comme ça et puis être en contact avec d'autres adultes qui sont hyper accueillants et de aussi voilà, de participer à cette tâche qui fait partie entière de la vie de ces familles boliviennes. Une fois que le soleil a disparu, il commence à cailler grave. Comme on en a l'habitude. Donc on rentre dans la maison se faire une infusion et là on fait la connaissance du reste de la famille de Jaime qu'on n'a pas encore vu. Il y a Rosalia qui est la femme de Denis. Donc Rosalia et Denis, ils ont une vingtaine d'années, ils sont tout jeunes et ils ont déjà deux enfants qui ont quelques mois pour la petite fille et puis 4 ans pour Vladimir. Et puis on fait la connaissance enfin de Jaime qui rentre après avoir guidé une randonnée et là c'est un sacré personnage. Jaime, il a une passion pour la France, le français. Il parle très bien français. Et il est fan de Michel Sardou. Donc, son rituel quand il rentre le soir de randonnée, c'est de se prendre une douche et puis de mettre Michel Sardou à fond dans la cuisine. Mais en fait, la cuisine rentre dans... Tout est ouvert. La cuisine, c'est la pièce principale, quoi. Et ouais, c'est pas l'ambiance musicale qu'on préfère, mais on trouve ça assez décalé de vivre ces moments-là au fin fond de la Bolivie. C'est un homme qui est tellement jovial et souriant qu'il a les rides à la fois de montagne, de plisser les yeux à cause du soleil, mais il a ses rides de sourire. Et c'est un enchantement, rien que de rencontrer cette belle personne.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu ? Venez écouter l'épisode 31 sur la cinquième et dernière partie de notre voyage en Bolivie. À bientôt !